Merci Guy et les personnes qui nous ont accompagnés dans la première partie de ce culte. Et je vous invite à lire sans plus tarder dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Nous poursuivons notre parcours dans ces sept lettres, et même avant cela déjà le chapitre 1, mais les sept lettres en particulier que le Seigneur Jésus a adressées à sept églises différentes de l'Asie. Et aujourd'hui, il s'agit de l'église de Philadelphie. Le texte s'affiche ici. À l'ange de l'église à Philadelphie, écrit : Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je donnerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds afin qu'ils reconnaissent que moi, je t'ai aimé. Puisque tu as gardé ma parole au sujet de la persévérance, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jusqu'ici la parole de Dieu. L'église de Philadelphie, la sixième église à qui le Seigneur donc s'adresse dans ce passage que nous venons de lire, est la seule avec l'église de Smyrne à qui il n'est fait aucun reproche. Peut-être ça vous a frappé à la lecture. Ça fait du bien de lire cette lettre, surtout quand on a lu toutes celles qu'il y a avant et quand on lit celles qu'à venir. À la Odyssée. Ça relève un peu le niveau des autres églises dont il est question dans ces deux chapitres. Une église où on a l'impression que tout va bien en apparence, et ça semble être le cas, il y a beaucoup de bonnes choses qui se vivent ici. Mais c'est aussi une lettre qui secoue, comme toutes les autres lettres. Alors, quel est le message que le Seigneur Jésus a voulu adresser aux chrétiens de Philadelphie et par conséquent le message aussi qu'il nous adresse à nous aujourd'hui. C'est bien le Seigneur Jésus qui s'adresse ici et qui se présente au verset 7 de la manière suivante. Voici ce que dit le Saint. Dans l'Ancien Testament, cette expression « le Saint » s'était utilisée pour désigner l'Éternel, Dieu le Père. Une expression qui revient en particulier assez souvent chez le prophète Ésaïe, où il est question du Saint d'Israël, pour parler de l'Éternel. Je donne juste une référence ou deux, Ésaïe 43, verset 15 ou 54, verset 5. Déjà, en s'adressant à Marie, l'ange avait décrit le Seigneur Jésus de cette manière : le Saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Au début de son ministère, il y a un esprit impur qui s'adressait à Jésus en lui disant « Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu. » Et l'apôtre Pierre affirme aussi cette réalité « Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » En se présentant dans notre passage comme étant le Saint, Jésus affirme toute sa divinité. Il est parfaitement saint, il est parfaitement digne de confiance, digne de respect. Et puisque Jésus est saint, eh bien, son Église doit l'être aussi. L'apôtre Pierre écrit ceci, « De même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, « Vous serez saint, car je suis saint. » C'est une citation ici de Lévitique, chapitre 19, verset 2. Jésus se présente aussi comme étant le véritable. Là aussi, c'est un titre qui servait à désigner l'Éternel dans l'Ancien Testament. Et toujours sous la plume de l'apôtre Jean, qui retranscrit ici les paroles de Jésus dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean écrit ceci dans sa première lettre au chapitre 5, l'avant-dernier verset du livre. Nous lisons « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. » Cela rappelle et affirme que Jésus est le vrai Dieu par opposition aux idoles. Idoles d'ailleurs qui sont mentionnées dans le dernier verset de cette lettre, cette première lettre de Jean, quand il est dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Gardez-vous des idoles pour être et vivre dans le véritable, dans le Dieu véritable, pour le servir, lui, le seul vrai Dieu. Et les chrétiens de Philadelphie n'échappaient pas à toutes les autres lettres, toutes les autres églises qui sont concernées. Elles aussi, à Philadelphie, c'était une société remplie d'idoles qu'il y avait autour. Il y avait le culte à l'empereur. Il y avait tout un tas de divinités et une en particulier qui s'appelait Dionysos, qui était le dieu du vin, le dieu de la vigne, le dieu de la fête, et avec la fête tout ce qui va avec, et tous les excès en tout genre. Les idoles ont toujours existé et elles existent encore aujourd'hui. Mais si nous avons placé notre confiance en Jésus, alors nous sommes dans la vérité. Nous appartenons au vrai Dieu. Nous appartenons au véritable, avec un V majuscule. Jésus se présente aussi dans cette lettre comme celui qui a la clé de David. Alors, dans le contexte de l'époque, la personne qui détenait la clé, c'était la personne qui avait l'autorité. Sous-entendu, la clé de la ville. La personne qui avait la clé de la ville, elle avait l'autorité de qui rentrait, qui sortait dans la ville. C'était une personne extrêmement importante. Dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, Jésus se présentait lui-même en disant « J'ai les clés de la mort et du séjour des morts ». Et là aussi, on retrouve la notion d'autorité. Jésus a une autorité même jusque sur la mort qui y entre et qui en ressort, sous-entendant la résurrection à venir. Et ici, dans cette lettre, Jésus a la clé de David, sous-entendant la clé du royaume de David. Jésus est un descendant du roi David. Il est le roi messianique. Il est le Messie annoncé. Et parce qu'il détient la clé de David, Jésus est seul à avoir l'autorité souveraine de déterminer qui entre ou pas dans son royaume. Il est celui qui détient les clés du royaume de Dieu. Il agit comme il l'entend. Lorsqu'il ferme, personne ne pourra ouvrir. Lorsqu'il ouvre, personne ne pourra fermer. Il est souverain. C'est une manière très forte ici d'affirmer sa souveraineté. Personne ne peut aller à l'encontre de ce qu'il a décidé. Il est tout puissant. Voilà comment Jésus se présente dans cette lettre et qui est en lien avec tout ce qui va suivre. S'ensuit le bilan justement que Jésus dresse de cette église de Philadelphie, quand il dit au verset 8 « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. » Cette église ici est félicitée par le Seigneur Jésus. Pourtant, c'est une église, comme on le lit, qui a peu de puissance. Alors, il ne faut pas y voir ici une critique, mais bien plutôt un constat, une réalité. C'est une église qui avait peut-être peu de personnes, peu de moyens, peu de ressources financières, peut-être peu d'influence. Mais cela ne lui a pas empêché d'être fidèle, car Jésus souligne « Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom ». Il n'y a pas d'hérésie doctrinale à Philadelphie. Il n'y a pas non plus de déviance sur le plan éthique. Les chrétiens de cette ville vivaient dans l'obéissance, dans la fidélité au Seigneur Jésus. Ils s'efforçaient de vivre d'une manière sainte, tout comme Jésus, leur Seigneur, est saint. Et ce, malgré la persécution. Ce que suggère cette expression « tu n'as pas renié mon nom », parce que justement, dans bien des situations, quand il y avait la persécution, on était tenté de renier le nom de Jésus pour ne pas être persécuté. Mais eux n'ont pas renié le nom du Seigneur Jésus. Ce qui plaît au Seigneur, ce n'est pas la puissance d'une Église, ni son budget, ni le nombre de personnes qui la composent, ni les forces et les compétences humaines, ni, point de suspension, toutes ces choses qui relèvent de cette terre. Ce qui compte, ce qui est important pour le Seigneur, c'est d'être attaché à Jésus-Christ. C'est d'être engagé dans une fidélité à la doctrine de Dieu. C'est une fidélité et une obéissance à la parole de Dieu. C'est une persévérance fidèle, loyale, malgré les épreuves et les difficultés. C'est une fidélité, comme on va le voir dans un instant, dans le témoignage et la proclamation de l'Évangile pour le Seigneur Jésus-Christ. Malgré leur peu de puissance, ces chrétiens de Philadelphie sont plus forts que leurs ressources terrestres et humaines, parce qu'ils puisent leur force en Christ, parce qu'ils comptent sur la puissance de Christ, parce que Christ et tout ce que Christ incarne et a fait leur suffit. Qu'en est-il de notre vie? Est-ce que Christ seul nous suffit? Quand nous sommes face à des difficultés, est-ce que nous puisons nos forces en nous-mêmes? Est-ce que nous puisons dans des subterfuges? Ou bien est-ce que nous apprenons à lâcher prise de toutes ces choses terrestres pour nous en remettre à notre Sauveur et Seigneur Jésus? Quel bilan dresserait-il, Jésus, de ma vie, de notre vie à chacun? Quel bilan? Toujours dans ce verset 8, Jésus dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » De quoi parle-t-il ici? C'est quoi cette porte ouverte? Il y a deux manières de comprendre qui sont complémentaires, hein, qui ne s'excluent pas l'une l'autre. Quand on regarde au contexte de cette lettre, il y a tout d'abord le verset 7 dont on a parlé il y a un instant, qui dit que Jésus a la clé de David, du royaume de David. Eh bien, cette porte ouverte désigne la porte du salut, l'entrée dans le royaume de Dieu, par l'intermédiaire de Jésus, le Messie. Jésus, dont il est question d'ailleurs dans l'évangile de Jean, et qui dit « Je suis la porte par où entrent les brebis, et on ne peut entrer dans l'enclos que par la porte. » Jésus dit aux chrétiens de Philadelphie, et il nous dit à nous aujourd'hui, que notre salut est assuré. Nous avons la garantie des bénédictions du salut par grâce, nous avons la garantie de notre entrée dans le royaume de Dieu, si nous avons placé notre confiance, notre foi en lui seul. C'est la première manière de comprendre. La deuxième manière, c'est que cette porte ouverte est aussi ce qu'on pourrait appeler une porte d'opportunité. L'opportunité de servir Dieu et en particulier l'opportunité d'annoncer l'Évangile, d'annoncer, de répandre la bonne nouvelle de Jésus. Juste un mot sur le contexte de cette ville de Philadelphie. Cette ville était placée à un endroit très stratégique et son fondateur, le fondateur de cette ville, deux siècles avant Jésus-Christ, on était sous la domination grecque à ce moment-là, il avait voulu faire de cette ville un moyen de propager la langue et la culture grecque vers l'Est, vers l'Asie. Et donc cette ville de Philadelphie était en quelque sorte une ville missionnaire pour la culture et la langue grecque. Eh bien Jésus est en train de dire maintenant que ce que cette ville de Philadelphie a été pour la culture grecque, elle doit l'être pour l'évangile de Jésus-Christ. À commencer donc par les habitants qui sont là dans cette ville de Philadelphie. Et en particulier, au sein de ces habitants, la communauté juive. Et ce qui permet de dire ça, c'est le verset qui suit le verset 9. Il faut toujours regarder au contexte pour comprendre ce que le texte veut dire. Le verset 9 dit « Voici, dit Jésus, je donnerai des gens de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds afin qu'ils reconnaissent que moi, je t'ai aimé. » Le peuple juif attendait la restauration du royaume de David, que le Messie justement allait accomplir. Mais en persécutant les chrétiens, en reniant Jésus-Christ, les juifs rejetaient le roi promis, celui qui a la clé du royaume de David. Et de fait, ils s'excluaient eux-mêmes du royaume de David. Et ce verset 9 invite à comprendre que ces chrétiens de Philadelphie devaient être des témoins, en particulier pour la communauté juive qui était là dans cette ville de Philadelphie. Et la persécution était bien là, à Philadelphie. Il y avait une opposition qui provenait en particulier de cette population. Des personnes juives manifestaient un tel rejet du message de l'Évangile qu'elles sont décrites ici comme étant une synagogue de Satan. C'est très fort comme terminologie. On l'avait déjà retrouvé dans la lettre à Smyrne, au chapitre 2. Une expression pour désigner parmi les Juifs ceux qui s'opposent à l'Église et la persécutent. Mais dans sa grâce, le Seigneur Jésus va donner des personnes de cette communauté juive qui vont donc se convertir et entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus, comme dit la fin du verset 9, les fera se prosterner et reconnaître qu'il a aimé ces chrétiens que les Juifs persécutaient pourtant. Et il y a une référence ici que je ne développe pas maintenant à Ésaïe 43, verset 4, où dans le contexte d'Ésaïe, ce sont les Juifs qui sont aimés, et cette même terminologie est utilisée maintenant pour parler de Jésus, Dieu le véritable, le Saint d'Israël, qui aime les chrétiens. Je ne la développe pas plus, mais vous pourrez regarder en Ésaïe 43, verset 4. Dans le Nouveau Testament, on a plusieurs fois cette expression qui sert à désigner la porte d'opportunité. Par exemple, l'apôtre Paul a passé 3 ans dans la ville d'Éphèse, il a prêché l'Évangile, donné des conférences, visité les gens dans les maisons, leur parler donc de Jésus. Et puis, depuis Éphèse, Paul écrit à l'église de Corinthe en expliquant pourquoi il retarde sa venue. Et il leur dit « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte s'est ouverte, toute grande à mon activité, et les adversaires sont nombreux. » Ou encore dans la deuxième lettre aux Corinthiens, « Lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile du Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une porte, mon esprit n'a pas eu de repos, parce que je n'ai pas trouvé Tite, mon frère. » Point de suspension. Voilà. Le Seigneur avait là aussi ouvert une porte pour l'action, le ministère de l'apôtre. Ou encore en Colossiens 4, versets 3 et 4, « Priez également pour nous, que Dieu ouvre une porte à notre parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et en parler clairement comme je le dois. » Acte 14, verset 27, encore un autre exemple, mais je ne le cite pas ici. Une telle porte était ouverte pour l'église de Philadelphie. Et ce, malgré un certain nombre de difficultés qu'il pouvait y avoir dans ce contexte de Philadelphie, tout comme Paul avait aussi, lui, vécu des difficultés, des épreuves, des persécutions. Mais devant cette opposition, il pouvait être tentant, en tant que chrétien à Philadelphie, de dire « Ouh là là, cette communauté juive, on ne va peut-être pas trop s'en mêler, ils nous cherchent des misères, des ennuis, ils nous persécutent. » Et Jésus leur dit « Non, non, il y a une porte là que j'ai ouverte, que personne ne peut fermer. Et vous, à Philadelphie, vous avez un rôle d'annoncer, de partager, de témoigner de votre foi, de partager l'évangile de Jésus-Christ, là où vous êtes, et en particulier aussi envers cette population. » Même là où, à vue humaine, le témoignage semble complètement impossible, Jésus peut ouvrir une porte pour l'annonce de la bonne nouvelle. Et il y a là aussi, il me semble, une leçon pour nous aujourd'hui. Ne désespérons pas de voir telle ou telle personne dans notre entourage se convertir à Jésus-Christ. Un parent très fermé à l'Évangile depuis tant et tant d'années, un collègue de travail qui manifeste un irrespect pour notre foi, un voisin très affirmé dans sa propre confession religieuse. Qui sais-je encore ? Je pense à une personne en particulier, je le dis de loin pas fier, hein. Je pense à une personne en particulier sur laquelle j'avais mis une croix, mais une croix comme ça, hein. pas une croix comme ça, une croix, c'est fichu pour elle. Elle était ancrée dans ses idées, dans son athéisme, dans ses pratiques, et puis, bien malgré moi, hein, mais le Seigneur l'a touchée. Et elle est venue à l'Évangile et elle marche depuis avec le Seigneur et ça fait 18 ans. Il n'y a pas de cœur trop dur pour Dieu. Et ça m'est arrivé, comme j'imagine à bon nombre d'entre nous, de me retrouver dans un contexte où j'ai eu l'occasion de témoigner de Jésus-Christ à des personnes qui étaient là, dans la conversation. Des personnes qui étaient toutes plus enracinées les unes que les autres dans leur propre croyance, voire même dans leur athéisme très affirmé. Mais il y avait cette porte ouverte devant moi et c'était l'occasion de rendre témoignage. Est-ce que nous avons à cœur d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus ? La vraie question n'est pas tant de savoir est-ce que la porte de l'opportunité à l'annonce de l'Évangile est ouverte ou pas. Et je n'ai pas l'impression qu'elle était ouverte là, je me dédouane. Seigneur, fallait l'ouvrir. Non, je pense que la vraie question, c'est plutôt de savoir est-ce que je suis disposé à témoigner autour de moi. Est-ce que j'avance dans ma journée, dans ma semaine, avec l'idée que Dieu peut ouvrir une porte pour l'annonce de la bonne nouvelle. Il peut nous arriver tellement facilement de baisser les bras quand il s'agit de parler de Jésus, de témoigner de Jésus autour de nous. Nous nous sentons trop faibles, trop peu nombreux. Nous ne savons pas quoi dire, ni comment le dire. Nous redoutons l'opposition de la personne qui est en face de nous. Et pourtant, Jésus nous invite à être ses porteurs de ce merveilleux message de l'Évangile. L'annonce de l'Évangile n'est pas uniquement du ressort de l'apôtre Paul dans le livre des Actes ou dans les lettres qu'il a écrites, ni de quelques-uns dans la communauté chrétienne. J'aime bien repenser à ce récit dans le chapitre 8 des Actes des Apôtres. Étienne vient d'être le premier martyr de l'Église, on lit ça dans la fin du chapitre 7. Il y a une persécution violente qui se déchaîne contre l'Église, qui est à Jérusalem, toute neuve, hein, toute récente, avec encore toutes ses fragilités. Persécution violente, et que se passe-t-il ? Eh bien, les chrétiens sont amenés à fuir. Vous pouvez lire ça, hein, dans le début du chapitre 8 des Actes des Apôtres. Ils s'enfuient, ils se dispersent dans toute la Judée, et même jusque dans la Samarie. Et là, ils partagent de leur foi aux gens qu'ils rencontrent. Et pas seulement à des juifs, mais même aussi à des païens, ce qui était complètement invraisemblable pour l'époque. Quoi, des juifs qui parlent à des païens? Ça ne se faisait pas. Et pourtant si. Ces premiers chrétiens ont simplement été des témoins de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et pourtant, on était dans un contexte d'oppression. Et je suis toujours étonné d'entendre que l'évangile progresse souvent plus vite quand la foi pourtant est persécutée que quand elle ne l'est pas. Là où il en coûte d'être chrétien, c'est tellement paradoxal, mais ça semble en même temps une réalité quand on voit, quand on en lit tout ce qui nous est rapporté. Alors n'ayons pas peur de saisir ces opportunités que le Seigneur place devant nous, de partager ce message de la bonne nouvelle de Jésus. Dieu nous invite aujourd'hui encore à ne pas renier son nom, mais au contraire à dire pourquoi nous aimons tant le nom de Jésus. Pourquoi nous aimons tant Jésus-Christ et tout ce qu'il a fait pour nous? Jésus poursuit cette lettre au verset 10 avec une promesse. Il dit « Puisque tu as gardé ma parole au sujet de la persévérance, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. » Dans sa souveraineté, ici, Jésus promet aux chrétiens de Philadelphie de les garder de l'épreuve qui vient, eux qui ont justement gardé le commandement de persévérer dans la foi en Jésus. De quelle épreuve s'agit-il? Il me semble qu'il s'agit ici de l'épreuve que traversaient les chrétiens de cette ville de Philadelphie et qui va s'intensifier au fur et à mesure que l'histoire s'écoule, pour finalement prendre une dimension de plus en plus universelle. Et puis, cette épreuve, il est dit qu'elle va venir sur le monde entier. La Bible du Semeur, dans sa version étude, dit ceci en note de bas de page sur ce verset. Je cite, « La suite de l'Apocalypse met en scène le combat que se livrent l'Évangile et la propagande satanique pour attirer l'attention des habitants de la terre. » Fin de citation. Et les habitants de la terre, c'est-à-dire dans le contexte de l'Apocalypse, les personnes non-croyantes, les païens, on retrouve cette même expression ici, « garder de », »,« je te garderai de », dans un autre passage, toujours sous la plume de l'apôtre Jean, en Jean 17, verset 15. Jésus dit, quand il s'adresse à son Père céleste, dans cette célèbre prière, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du diable. » Il ne s'agit pas ici de leur épargner les attaques du diable, mais de les garder pour qu'ils ne cèdent pas au diable. Et en tant que chrétiens, nous connaissons et ou nous connaîtrons des épreuves. Mais le Seigneur Jésus, dans ce texte de Jean 17, comme dans Apocalypse 3, nous dit qu'il est et sera toujours avec nous. Au sein de l'épreuve, il nous gardera. Non pas pour qu'on en soit épargné, l'épreuve sera là, mais il nous gardera. Ces épreuves ne sauraient être là pour nous en signe de jugement ou de condamnation. Le jugement, la condamnation sont pour les non-croyants. Non, ces épreuves que nous pouvons traverser, Dieu les permet, pour notre croissance dans sa foi en lui, pour notre perfectionnement, pour notre persévérance. Apprenons à les voir comme tels. Et Jésus continue par une exhortation au verset 11. « Je viens bientôt, tiens fermement ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. À ceux qui tiennent fermement, qui persévèrent fidèlement, personne ne prendra leur couronne. » C'est-à-dire leur récompense. Elle est déjà acquise, cette récompense. Elle est là, au bout du chemin. Et Jésus donne cette exhortation. Tu as tenu jusque-là. Eh bien, continue. Tiens fermement ce que tu as. Et ce que tu as, c'est quoi? C'est ton obéissance, ta fidélité dans l'épreuve, ton témoignage à l'évangile de Jésus-Christ. Ne te décourage pas. Je viens bientôt. Dit le Seigneur Jésus. Et le retour de Jésus mettra fin à justement toutes ces épreuves, à toutes ces souffrances de la vie présente. La perspective du retour de Jésus, c'est le prochain grand rendez-vous dans l'agenda de Dieu, hein, que lui seul connaît. La perspective du retour de Jésus devrait nous pousser à continuer, à faire ce qui est bien, à persévérer au sein de l'épreuve et à annoncer, partager la bonne nouvelle de Jésus. À qui veut l'entendre ? Alors tenons fermement dans la foi en Jésus. Et ça vaut le coup de persévérer jusqu'au bout. On le voit avec le verset 12 qui suit, cette récompense, quadruple récompense même au vainqueur. Le vainqueur, j'en ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Quatre récompenses qui attendent les croyants qui vivent fidèlement et qui s'engagent, notamment là, par cette porte qui est ouverte, qui s'engagent dans le partage de la bonne nouvelle de Jésus. Quatre récompenses qui sont en fait quatre facettes d'une même récompense. La première, c'est le vainqueur sera une colonne dans le temple de Dieu, dit Jésus, de mon Dieu, dit Jésus. Une colonne, ça évoque quelque chose de stable, qui ne bouge pas, qui est sûr, qui ne tombera jamais. Et là encore, le contexte de la ville de Philadelphie peut apporter un petit éclairage intéressant. C'est une ville qui, plus que toutes les autres alentours, même si d'autres avaient vécu aussi cela, elle avait connu des tremblements de terre, dont un particulièrement fort en l'an 17, 75-80 ans avant que Jésus s'adresse à l'Église ici. Un tremblement de terre qui avait marqué les mémoires, d'autant qu'il y avait eu beaucoup de répliques qui avaient suivi. Et donc, parler d'une colonne, de quelque chose qui ne bouge pas, c'était plutôt parlant pour des personnes, des habitants d'une ville qui étaient habitués à fuir à la moindre secousse, qui quittaient la ville en catastrophe quand il y avait des séismes. Et c'est l'assurance ici que eux, et même nous aujourd'hui, nous faisons partie du peuple de Dieu, et ce à jamais. Nous serons dans le temple de Dieu, c'est-à-dire nous serons dans la présence même de Dieu. Un jour, nous verrons Dieu face à face. Nous serons dans sa présence. Ce ne sera pas une vue de l'esprit. Nous le verrons. Quelle récompense ! Deuxième, troisième et quatrième récompense ici, ce sont ces noms qui seront écrits sur le vainqueur, les vainqueurs. Tout d'abord, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Étant donné que dans la Bible, le nom représente la personne dans tout ce qu'elle est, ce nom sera tel un sceau, S-C-E-A-U, un sceau qui vient sceller. Nous appartiendrons à Dieu éternellement. Nous lui appartenons. Le nom, troisième récompense, j'écrirai sur lui le nom de la ville de mon Dieu. Cette nouvelle Jérusalem, qui est décrite au chapitre 21 de ce livre de l'Apocalypse. Nous aurons alors une nouvelle et éternelle citoyenneté. Nous ferons partie de la ville du grand roi, du Christ Sauveur, éternellement. Et dernière récompense, j'écrirai sur lui mon nom nouveau, en signe de notre appartenance à Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Si nous risquons notre nom, si nous risquons notre réputation pour le Christ dans ce monde, voilà le bel avenir qui nous attend, qui s'ouvre à nous. Ne soyons pas tentés de nous conformer aux circonstances terrestres et de risquer de compromettre notre foi. Mais ayons toutes nos pensées qui sont tournées vers le ciel, tournées vers la récompense finale. Voilà ce qui nous attend. Ça vaut le coup de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Et cette lettre, Elle se termine, elle aussi, comme les six autres, par cette même phrase « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. » Un avertissement ici à prendre en compte tout ce qui vient d'être dit pour persévérer, pour être vigilant dans ce monde, pour mettre en pratique la parole de Dieu, pour ne pas renier le nom du Seigneur Jésus, mais au contraire, pour franchir les portes ouvertes, ces portes d'opportunité que Jésus lui-même a ouvertes et placées devant nous, et pour partager son nom, le nom de Jésus, et être témoin de l'Évangile. Que le Seigneur nous garde dans cette tâche. Amen.